48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour, bienvenue à tous pour ce 24e MAC de 48 FM avec toujours 4 invités aujourd'hui pour 3 sujets. Et Nico à la technique et en modérateur. Bonjour Nico.
Bonjour.
Alors pour ce nouveau MAC, tout d'abord nous allons parler enseignement avec Lucie Felippo, présidente de l'association des étudiants du lycée Notre-Dame, et Faïs Abdou, chargé de mission, à l'occasion d'une rencontre d'anciens élèves du BTS du lycée Notre-Dame ce vendredi et d'un réseau que vous êtes en train de créer. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
En ce moment se déroule le projet Respect des différences proposé par la mairie de Mende. Et pour en parler aujourd'hui, Françoise Amargé-Brajon, adjointe en charge de l'action sociale. Bonjour.
Bonjour.
Enfin, la nouvelle convention d'objectifs et de moyens des scènes croisées de Lozère vient d'être signée. Avec vous, Nicolas Blanc, le directeur des scènes croisées de Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comme vous êtes étudiante et que vous avez cours à 13h, on va commencer avec vous, Lucie Felippo. François-Nicolas, vous n'avez pas cours, c'est bon? Françoise,
non,
pardon.
Non,
non. Bon, donc on commence avec vous, la présidente de l'association des étudiants du lycée Notre-Dame. Alors le changement, c'est maintenant. Vous êtes présidente de l'association des étudiants du lycée. Vous avez décidé avec les autres élèves et vos professeurs de créer un réseau d'anciens élèves. Expliquez-nous-en peut-être pour commencer le principe.
Alors en fait, le réseau qu'on va essayer de créer pendant cette manifestation, c'est entre du coup les anciens étudiants du lycée Notre-Dame. Qui ont donc fait un BTS, donc le BTS à 20 ans au lycée. Et donc on veut essayer de créer un réseau entre les étudiants actuels, donc nous, et les autres BTS du lycée et les anciens qui étaient là avant. Donc pour essayer de créer des contacts et puis favoriser un échange en fait entre tous ces étudiants et voir quelles sont les possibilités d'évolution ensuite de carrière, etc. Entre les étudiants.
D'accord, vous avez réussi à remonter les 20 années des différentes promotions ?
Alors, on n'a pas réussi à joindre tout le monde, parce qu'il y en a. Enfin, on a réussi à joindre beaucoup d'étudiants, mais évidemment, il y en a qui sont très loin maintenant, qui travaillent, et donc du coup, qui sont assez éloignés
même à la retraite, non ?
Peut-être non, pas encore. Peut-être pas encore, non. Mais du coup, qui travaillent pas forcément en Lozère, donc ils n'ont pas tous pu répondre positivement à l'événement. Mais cela dit, on a réussi à les contacter, notamment via Facebook, via nos réseaux sociaux, et puis les professeurs qui ont pu avoir les anciens étudiants, et puis par le bouche à oreille, du coup, les anciens contacts qu'il y a pu avoir, on a réussi à joindre pas mal d'étudiants.
Et vous avez pris les meilleurs ou...
Ah oui.
Même les cancres.
Tous.
C'est ce que j'allais vous demander, c'est un travail titanesque. Comment vous faites pour les retrouver ? Donc réseaux sociaux principalement ?
Oui, réseaux surtout via Facebook. Après, il y a aussi pas mal nos professeurs qui ont gardé la base de données des élèves et en fait qui ont pu réussir à contacter. Et puis après, on a eu des groupes aussi d'élèves chargés de recontacter les anciens étudiants. Donc grâce à ces bases de données-là, ils ont eu leurs adresses, leurs coordonnées, et puis on a pu, par mail, par réseaux sociaux, les contacter.
Vous avez trouvé combien à peu près qui ont répondu présent ?
Alors,
parce que 20 ans, c'est énorme. À chaque fois, c'est quoi ? C'est une quarantaine de personnes ?
Là, en ce moment, on en est 300 qui sont inscrits sur...
Sur la base de données.
Oui, la base de données qu'on avait créée via le site du lycée Notre-Dame. Donc 300 qui sont inscrits, ce qui est très encourageant. Et...
C'est énorme, oui.
Et là, vous avez des profils très très différents. Ça représente la société ou est-ce que c'est à chaque fois particulier comme profil de personne par rapport à leur travail ?
Ah, par rapport à leur travail. En fait, nous, on les a demandés par rapport aux BTS qu'ils ont fait. Donc on a les différentes BTS qui ont été là, c'est-à-dire les AD, c'est-à-dire assistants de direction, PMI, PME, les anciens NRC, le ESF aussi. Donc voilà, ce sont des anciens BTS qui ont été créés et maintenant qu'on a différents profils qui nous sont rejoints. Et il y a aussi ceux de maintenant. Donc en tout, après, on a 300 personnes.
Et le but, en fait, c'est aussi pour nous de les rencontrer, en fait, de voir ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus après ces
BTS. Oui, c'est ça le plus intéressant.
Donc, pour ma part, je ne sais pas exactement tous les profils qu'il va y avoir. Mais justement, ce sera l'occasion pendant l'événement de les rencontrer et de voir ce qu'ils ont pu faire et qu'est-ce qu'ils font maintenant actuellement grâce à leur BTS et au passage au lycée Notre-Dame.
Voilà, parce que c'est un des objets de ce réseau, c'est justement de se créer un réseau pour avoir des contacts, pour savoir le parcours de ces élèves. Bien que ça ait pu changer pendant 20 ans, parce que je suppose qu'il y a 20 ans, sortir d'un BTS...
Il y a aussi ça, c'est aussi ça l'intérêt, pour moi et puis pour les autres étudiants. C'est-à-dire que quand on va les rencontrer, on va pouvoir leur demander qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pu, dans le BTS et puis dans les formations en Lozère, qu'est-ce qui a pu se transformer, qu'est-ce qui pour vous a changé. Et puis du coup, nous, ça peut nous donner des idées aussi, ça peut nous donner des contacts pour après, pour des futurs projets professionnels. Pour la vie étudiante en Lozère, et puis pour aussi dynamiser les formations supérieures en Lozère, en parler, former toute une opération de communication sur les formations supérieures en Lozère. Quoi.
Est-ce que vous avez pensé à un projet de parrainage, par exemple, de faire qu'il y ait un étudiant d'un BTS actuel qui soit parrainé par un professionnel?
C'est-à-dire par rapport à l'événement ou...
Pour l'aider dans ses études, l'aider
après,
dans ses études.
Après l'événement, oui.
Ça peut déboucher sur ça. Après, justement, on va essayer de créer un réseau ensuite entre donc le réseau PROMS, comme on l'a appelé, qui serait, par exemple, oui, on peut très bien avoir un contact avec un ancien étudiant et puis qui puisse être un futur maître de stage ou un futur employeur. Pour la suite quoi, de nos projets.
Oui, parce donc, que souvent dans les écoles, je pense aux IEP, Institut d'études politiques, tout ça, souvent les anciens élèves deviennent des parrains pour aider à trouver des stages.
C'est aussi le but.
Voilà.
Tout à fait.
C'est un peu la force après de ces réseaux et puis de ces organisations.
Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Pour nous, c'est une super opportunité pour ça, justement, de se créer des contacts.
Et comment ces anciens élèves que vous êtes allés chercher ont vécu cette proposition ?
Par rapport au taux de réponse ?
Ils l'ont bien pris et ils étaient bien contents. D'ailleurs, on avait organisé un petit réunion avec eux. C'était un vendredi. Et pour mettre un peu en place, donc on avait invité des anciens élèves et qui sont arrivés et ils étaient bien intéressants et qu'ils ont trouvé que l'idée était bien pour parce que ça a été, rappelons-le que ça n'a pas été fait avant, donc c'est une bonne opportunité pour nous aussi.
D'accord, et donc là vous allez les retrouver à l'occasion vendredi d'une soirée festive, vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors la soirée ça va commencer donc vers 19h, donc déjà on va commencer par accueillir l'ensemble des invités, donc il y aura les anciens étudiants, les institutionnels qui nous ont donné des subventions, donc il y aura monsieur le député, et puis des...
Il vous a donné combien?
Ah.
C'est pas discret.
Une bonne somme, après je sais pas si...
S'il faut le dire.
Voilà, c'est peut-être pas... C'est peut-être... Non.
Ah bon, je croyais, moi c'était de l'argent public, on doit tout savoir. Hein.
Oui, mais bon...
Enfin, c'est gênant.
C'est une question gênante.
Elle n'est pas gênante dans le sens que c'est un travail qui a été fait par les élèves. Rappelons-le aussi que toutes les subventions qui ont été données pour la manifestation étaient faites par les élèves. Tous les côtés sponsors et tout, c'est nous qui avons cherché. Donc, voilà.
On a été à la recherche de sponsors. Donc les sponsors nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Mais ça, c'est...
Combien?
Ah là là!
Ah, c'est bien! Ah ben, mais c'est ça la radio, c'est ça direct, on pose des questions, on n'est pas obligé de répondre. Hein.
Voilà, on n'est pas obligé d'y répondre.
Mais si on n'y répond pas, ça pose un doute.
C'est une somme pour moi qui est très très importante. Et, en fait, les sponsors plus les subventions, toutes les demandes de subventions aux institutionnels qu'on a pu faire nous permettent de financer l'ensemble de la soirée.
Ah ben c'est très bien. C'est un encouragement en fait. Non mais c'était simplement pour vous taquiner, mais aussi pour encourager peut-être d'autres établissements à le faire.
Bah oui, tout à fait.
Voilà, en sachant que si le député a donné un peu d'argent, il serait peut-être obligé d'en donner aux autres.
Il y a aussi
ce qui serait très bien d'ailleurs. Voilà.
Oui, c'est très encourageant.
Le député d'ailleurs qui nous a aidé en 2012, qui nous a aidé également. Hein,
oui, tout à fait. Mais ouais, normalement, un député comme un sénateur, ils sont là pour aider les concitoyens. Hein.
On leur remercie beaucoup pour ça. Donc voilà, c'est pour nous, premier BTS communication au lycée Notre-Dame, et avoir l'opportunité d'avoir toutes ces subventions de leur part, c'est très encourageant.
On est très content d'avoir reçu les lettres positives et puis par la suite les subventions. Le conseil général et puis le député, c'est des sommes assez importantes. Plus tous les sponsors, ça nous aide vraiment beaucoup. Quoi. On ne s'attendait pas à autant.
Rappelons-le aussi, c'est aussi les partenaires du lycée.
Oui. Beaucoup de partenaires et d'entreprises qui sont en partenariat avec le lycée pour des stages. Enfin, ce sont des maîtres de stage.
D'accord, ça va vous permettre par la suite de multiplier les actions. Donc là, c'est une première prise de contact, on pourrait dire. Vous avez déjà des idées pour l'avenir, savoir qu'est-ce que vous pouvez faire et créer avec ce réseau? Chaque chose en son temps, on va commencer par une première prise de contact, on verra après.
Justement, on est parti sur ça, parce que vu que c'est nouveau, on a déjà, le fait de le créer, c'est déjà une épreuve qu'il faut passer. Après, on verra par la suite, on discutera directement avec les membres qui seront et on verra ensuite tout ce qui sera mis en place.
Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée? Ça démarre à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites?
Alors,
vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Voilà, donc justement, à 19h, donc, on va accueillir donc, tout cet ensemble de personnes, les invités, puis les élèves, les étudiants. Donc, on va commencer par un discours et remercier...
c'est une soirée privée, de toute façon. C'est pour ouvrir au public.
Ah non.
D'accord.
Oui, c'est privé,
Nico, vous voulez s'incruster?
Ah ouais. Ça dépend ce qu'il y a à manger.
Du coup, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y aura à manger, mais pour ça, il faut s'inscrire.
Ça, on ne peut pas le dire non plus.
C'est confidentiel. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait assez à manger pour tout le monde.
Ça dépend de la... Suivant ce que tu as dans l'assiette, tu sais le taux de subvention. Alors, d'accord, accueil, très bien.
Voilà. Donc ensuite, on va aussi lancer une vidéo en fait, qui va retracer un petit peu l'histoire du BTS et qui sera réalisée par les élèves de l'option cinéma du lycée, donc vers 19h30. Ensuite, à 20h, on va justement commencer à parler de ce réseau PROMS, donc avec l'association des étudiants actuels et des anciens étudiants. Et puis à partir de 20h30, il y aura un apéritif de proposer avec la remise des diplômes des dernières promotions. Et puis après, c'est là que commence la soirée un peu plus festive avec le buffet. Il y aura un concert quand même qui est organisé par un des professeurs, Monsieur Brugeron du lycée, qui a un groupe de musique et qui va participer pendant la soirée à faire son concert et puis y animer donc la soirée.
C'est Joël Brugeron.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Qui
a participé à 40.
Oui.
Quand tu t'aimes de cœur.
Voilà,
qui est président
aussi,
de cœur. Professeur, en fait.
Voilà.
D'accord, qui est prof chez vous.
Et donc, il y aura
professeur d'anglais.
D'accord.
Voilà.
Parce que la musique dans la communication, ça aide pas trop. Prof de musique.
Ah bon?
Ah bon?
Si, pour la culture générale.
Ah, remarque.
Ça pourrait.
Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, cette formation qui vous est dispensée, comment vous la voyez actuellement? Parce que vous êtes en quelle année?
En première année.
En première année.
De BTS Communication.
D'accord, oui. 2 ans de BTS Communication et à la sortie, donc, c'est lié quand même à des emplois et à quel type d'emploi?
Donc, tout d'abord, moi, personnellement, j'ai choisi le BTS Communication pour après aller dans l'événementiel, qui est certes un domaine très large. Donc, mais j'espère d'ici là pouvoir me spécialiser et voir vers où je me tournerai. Quoi.
L'événementiel culturel, sportif
Oui, culturel, mais après, bon, là,
marketing,
je vais peut-être
quoi.
Culturel, dans le sens que je viens d'un île, où pour moi, c'est ça ce qui est plus intéressant que faire avancer ma culture, ma braise. Donc voilà, ça me permet.
De quelle île vous venez?
Mayotte.
Mayotte, d'accord.
Oui, c'est 101e département.
Oui, tout à fait. Ouais.
Peut-être qu'on nous écoute alors par Internet, aujourd'hui à Mayotte.
J'espère, s'il travaille dans la communication, j'espère que dès ce soir,
entre-temps, on a...
dès ce soir, on nous écoute à Mayotte. Quoi, sinon,
C'est bien, oui. Après, à Mayotte aussi, la communication, en ce moment, elle commence à se développer et c'est ce qui est bien aussi.
Les infrastructures, la communication. Oui. J'étais il n'y a pas longtemps avec le président de la Ligue de l'enseignement de Mayotte. Qui a été créé il n'y a pas très longtemps, ils sont 2.
Ah ben voilà.
Ah ben c'est bien.
Voilà, ça démarre.
Voilà.
On va donner les contacts pour un stage.
Un petit peu ce qui se passait.
Oui. Ouais. Ah oui, pour un stage, c'est très bien. Ouais, je suis
l'an prochain. Ouais. C'est de Mayotte.
Oui, c'est un BTS en fait pour faire.
C'est un BTS assez polyvalent.
Voilà, qui touche tous les postes de la communication, à la publicité aussi, il me semble.
Oui, on peut. Donc, si on sort avec donc le BTS, on peut travailler directement dans une agence de com, de communication. Après, on peut se spécialiser dans un peu tout, parce que la communication aujourd'hui, il y en a partout. Donc, ça peut être dans la publicité, ça peut être dans le journalisme aussi, ça peut être. Moi, personnellement, ce serait plus dans la médiation culturelle. Organisation de festivals, d'événements, donc faire de la communication pour des spectacles, par exemple programmatrice dans un théâtre, donc faire de la communication, moi ce serait plus dans la culture du coup. Mais il y a vraiment plein de domaines dans lesquels on peut se spécialiser avec un BTS com après, notamment en passant par des licences pro. Je sais qu'il y a des licences tourisme culturel, des choses comme ça. Qu'on peut faire après aussi. Ouais.
Vous n'avez pas l'impression d'être nombreux sur ce créneau-là ?
Si.
Parce qu'il y a aussi.
Si, c'est le problème. Ouais. Ouais.
C'est un peu le problème. Ouais.
Mais il faut aussi défendre sa place. Donc, je vais mettre tout. Enfin, on va mettre tout ça en œuvre pour avoir notre BTS. Donc,
ouais. Ce qui compte, je pense, c'est la motivation dans ce milieu. En fait, c'est vraiment. Si c'est quelque chose qui nous plaît, on va réussir à percer et à trouver les moyens d'aller là où on veut, quoi. Après, c'est sûr qu'on est nombreux, donc il faut vraiment y aller, quoi. C'est...
12 réseaux aussi que vous constituez pour vous faire aussi des passerelles.
Oui, exactement. C'est vraiment une opportunité d'avoir un petit carnet et puis de pouvoir noter après les contacts pour la suite, quoi.
Carnet d'adresse.
En tout cas, oui, c'est une belle formule. Bon, c'est pas nouveau parce que ça existe dans beaucoup d'écoles, mais de l'avoir appris, c'est bien sur la Lozère.
Et c'est un exercice aussi, oui.
En plus, il y a quand même une situation particulière en Lozère, c'est qu'il y a beaucoup de Lozériens en fait, qui sont très attachés à leur territoire, mais qui travaillent sur Paris à l'extérieur. Hein, on connaît les Lozériens de Paris, mais pas seulement. Coucou les Lozériens de Paris, ceux qui nous écoutent. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important, cette notion de réseau, qu'en Lozère, on a besoin de ce maillage, aussi de ces aides de l'extérieur, et puis des gens qui connaissent un petit peu maintenant le monde professionnel pour aider les autres, quoi.
Je pense qu'en Lozère, il faut vraiment le dynamiser, ce réseau, en parler, le faire connaître. Et justement, en BTS-COM, c'est un peu notre but aussi, quoi. C'est un peu notre rôle, justement, de favoriser les études supérieures qu'on peut faire en Lozère. Et puis, peut-être travailler par la suite, parce que le contact se fait très facilement. Vous voyez, aujourd'hui, on a invité à 48FM et ça s'est fait assez rapidement. Parce que, justement, c'est un atout de la Lozère, quoi. Donc ça c'est à dynamiser et à communiquer, à faire connaître. C'est vraiment...
Alors, il existe aussi un autre réseau qui est très très important pour vous en tant que BTS communication, peut-être, hein, c'est le réseau associatif sur lequel il y a une grosse demande en fait de communication.
Oui.
Alors là, c'est pas en termes de stage ou de professionnalisation, hein, c'est plus en termes de partage de connaissances et d'expériences.
Oui.
Ça peut être intéressant pour vous, en tout cas, de participer à la vie de certaines associations pour les dynamiser. Et les faire connaître à l'extérieur, parce que c'est un peu le point faible en Lozère. C'est-à-dire, on entend parler en Languedoc-Roussillon un peu partout de ce qui se passe, mais quand on regarde les informations, enfin, quand on écoute les informations, ne serait-ce que sur des radios comme Radio France Bleu Gare Lozère, on parle très très peu souvent de la Lozère, si ce n'est pour vendre un canapé ou des choses comme ça.
Ah oui, c'est ce qui est dommage. Mais
en termes d'action, l'ensemble de ce qui se fait est très très peu relayé. C'est un peu dommage, quoi. Justement. Donc c'est vrai qu'il y a tout un boulot de communication à faire.
Oui, parce qu'il y a quand même plein de choses qui se passent sur une petite ville comme Mende. Donc, au niveau culturel aussi, notamment, et médico-social.
Très bien, on peut souhaiter que ça fasse des petits, que dans d'autres établissements scolaires, il y a les mêmes outils, les mêmes souhaits, quoi, de voir ces réseaux se mettre en œuvre.
Voilà, et on reviendra avec vous prochainement, dans quelques mois du moins, pour faire un retour sur ce réseau, savoir comment il vit, comment il progresse également. Et le lycée Notre-Dame qui est également partenaire dans le projet Respect des différences dont on va parler maintenant. T'as vu l'enchaînement ? Mais avant ça, un petit jeu pour gagner des places pour le spectacle Yvan Marc et Vincia ce vendredi à la salle polyvalente de Langogne à 20h30. Des places offertes par un de nos partenaires, les Fadarel. Donc on va vous demander, ces étudiants viennent de quel lycée, si c'est le lycée Notre-Dame ou si c'est un autre. Voilà, donc vous appelez au 04 66 31 59 68, vous donnez votre réponse et il y a des places à gagner pour ce spectacle vendredi à 20h30. Une pause musicale, Nico ?
Oui, avec Bob Dylan, The Mind Is Me. My
my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know. He doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through to the man in me.
FM Le Mag.
Et nous voilà de retour, donc ça sature un peu, c'est bon. Avec cette deuxième partie d'émission, nous allons parler d'égalité, de fraternité avec Françoise Amargé-Brajon, l'adjointe amende en charge de l'action sociale, pour évoquer le projet Respect des différences. Donc peut-être expliquez-nous qu'est-ce que ce projet et pourquoi l'avoir mis en place.
Alors d'abord, ce projet est mené au départ, si vous voulez, par la Maison Solidaire. C'est un centre social qui a été créé il y a 2 ans. Et l'an dernier, il y avait eu un projet commun, c'est-à-dire par les associations, construit par les associations qui sont logées dans cette Maison Solidaire, selon les besoins des gens enfin, qu'elles reçoivent, c'est-à-dire les enfants, les parents, etc. Il y avait eu un projet sur les risques, sur la prévention des risques des accidents domestiques. Et on avait travaillé à ce moment-là avec les étudiants de l'IFSI. Les étudiants.
Alors, l'IFSI, c'est
l'Institut de formation des soins infirmiers de Lozère, donc l'école d'infirmiers de Mende. Les SP3S du lycée Peytavin et les BTS-ESF, donc économie sociale et familiale de Notre-Dame. Et cette dynamique a tellement bien marché que cette année, voulant recommencer une expérience tous ensemble, on a été de nouveau en liaison pour travailler sur ce projet. À tous ces partenaires se sont rajoutés le service jeunesse de la ville de Mende, parce que c'est un sujet, le respect des différences, c'est un sujet qui touche tous les jeunes. Enfin, ils en souffrent, certains. Certains sont très touchés par ce qu'ils voient, par tout ce qu'ils sentent, tout ce qu'ils entendent, alors que ce soit des petits, des gens d'école primaire, même des lycéens, des collégiens. Et c'est pour ça que ce projet est reparti dans ce sens-là pour cette année. Tous ensemble, nous avons travaillé sur ces thèmes-là.
Ils sont touchés dans quel sens par ce qu'ils entendent ?
Ben, tout ce qu'on voit à la télé, hein, les infos, etc. On voit là, actuellement, on peut parler d'homophobie, on peut parler
de discrimination.
De discrimination.
En général, alors, le sens-là.
Voilà, que ce soit sur le handicap, sur le... l'apparence, sur le faciès, il y a beaucoup de choses. Alors, ce qui peut entraîner des discussions qui sont toujours enrichissantes, mais qui peuvent entraîner aussi de la violence ou la discrimination pure et simple.
Sur le fait d'être un homme ou une femme, hein, puisqu'on sort de la semaine de la femme.
Voilà.
Oui. La semaine des droits de la femme, oui. Si le CEDIF oui. M'écoute. Mmh. Bonjour le CEDIF.
La journée. Malheureusement, la journée. Oui, mais bon. Des droits de la femme.
Et oui.
Mais peut-être prochainement, la semaine, ça serait bien.
Le mois même.
Ou le mois, hein. Nous on est pour. Hein.
Oui, oh ouais, nous on est pour un 48 FM.
La vie, tout
l'année
simplement.
L'année de la femme.
Donc vous avez proposé, pour faire réfléchir et discuter ces jeunes, divers ateliers.
Voilà. Donc il y a plusieurs ateliers qui sont dispatchés un petit peu sur l'antirouille, hein, puisque le service jeunesse est partie prenante de ce projet. L'antirouille, Saint-Hippide, la maison solidaire, bien sûr, les salles des associations. Alors là, on peut voir divers ateliers. Alors, il y a plein d'ateliers qui sont ouverts à tout le monde, c'est-à-dire déjà aux enfants de CM1, CM2, collégiens, lycéens, qui ont lieu dans tous ces lieux dont je viens de vous parler. Et ces ateliers sont menés par les élèves infirmiers et des BTS ESF de Notre-Dame. Alors, je peux vous dire les thèmes, hein,
oui.
De ces ateliers, puisqu'ils sont nombreux. Il y a le sport pour les personnes handicapées, la vie intime des personnes handicapées, l'accessibilité, les différences liées aux croyances, les différences liées à la sexualité, au handicap, les différences culturelles, sociales, les différences générationnelles, les différences selon les apparences, ce dont je parlais tout à l'heure, et les différences liées à la maladie. Donc ces ateliers, bon, bien sûr, sont ouverts à tout le monde, c'est-à-dire que...
Mais c'est en temps scolaire, non?
Ce n'est pas qu'en temps scolaire, voilà, c'est proposé au CM1, CM2, collégiens, lycéens, mais n'importe quelle famille, et c'est ce qui est intéressant, c'est que les parents y aillent avec leurs enfants et puissent discuter, ça peut être une amorce de discussion, et peut-être de lever certains tabous, parce que certains jeunes n'osent pas parler...
À leurs parents, c'est ça?
À leurs parents, et ça peut être justement l'occasion d'amorcer une discussion.
Oui. C'est bien, vous avez choisi des thèmes vraiment éclectiques sur différents sujets. Ouais.
Oui, voilà.
Il y a des associations donc, sur place pour répondre? Vous avez fait appel à...
Ce sont les étudiants.
Ce sont les étudiants eux-mêmes, hein, d'accord, voilà. Qui ont travaillé en amont et qui...
Oui, alors donc d'abord, ils ont fait des micro-trottoirs. Pour voir un petit peu les besoins des gens, ce que les gens pensaient des différences, de quelles différences on pouvait parler. Ils sont allés aussi à la rencontre, bien sûr, des autres lycéens et collégiens. Ils ont rencontré des parents d'enfants handicapés. Ils ont rencontré également la compagnie Samouraï, qui a bien sûr fait un spectacle sur ce sujet-là.
Le métier d'homme.
Comment ?
Le métier d'homme.
Oui, voilà, bien sûr, le métier d'homme.
Qui sera joué ce soir d'ailleurs, hein, à 20h30.
Oui. Et à guichet fermé.
À l'espace des Anges.
Voilà. Et je n'ai pas été assez rapide pour avoir une petite place.
Mais on pourra te faire une petite place, ouais, Françoise. On va essayer de les appeler pour avoir un bout de banc quelque part.
Voilà, donc c'est un travail tout en amont là, hein, de tous les lycéens. Alors bien sûr, ils ont été aidés dans ces recherches par les professionnels de la Maison solidaire et de l'Antirouille, la Maison des jeunes. Ils ont été aidés également par Rodolphe Gire, qui est un artiste lozérien et qui est moniteur éducateur également.
Qui avait fait... Le Galion, voilà, qui travaille dans cet institut.
Voilà. Donc, il avait fait une exposition déjà à la maison consulaire avec des photos en noir et blanc. Et il a aidé, enfin, il a conseillé, puisqu'elles ont construit elles-mêmes. Et ce matin, je suis allée voir cette exposition qui est magnifique, une exposition en photo noir et blanc. Ça a été fait par les élèves du BTS SP3S du lycée Pétavin. C'est une superbe exposition avec de beaux textes et qui est très parlante et très touchante.
Qui est visible encore pendant un bon moment.
Pendant trois semaines. Cette exposition, c'était à la Maison solidaire, donc le centre social. Après, donc, bien sûr, oui, ben, c'est ce soir, hein, qu'il y a la compagnie Samouraï qui intervient. Ce matin, pour en revenir à la Maison solidaire, il y avait un atelier parents-enfants ou alors... Il y a des enfants qui sont venus, puisque je suis allée voir un petit peu comment ça se passait. Il y a des enfants qui sont venus aussi avec leurs assistantes maternelles. Et là aussi, c'était un espace partagé. C'était un moyen de communiquer sur la différence. C'est-à-dire qu'il y avait des ateliers avec différentes sonorités. On faisait entendre des petits de 2-3 ans, papa, maman, en français, mais en anglais, en espagnol. Et on voyait comment ils réagissaient, comment ils pouvaient essayer de répéter, enfin... Et c'était là aussi la différence des langues. C'est tout petit que ça peut interpeller et puis s'acquérir. Il y avait des jeux avec de la pâte à modeler. Enfin, c'était un endroit très intime entre par adultes et enfants de jeune âge. et c'était très intéressant à voir aussi. Il y aura aussi demain, à partir de 15h, à l'Antirouille, un goûter philo avec le thème « Jusqu'où voit la différence ?» qui est animé par Sylvain Teul, qui est professeur de philosophie au lycée Peytavin, en présence de Tiphaine, le comédien du spectacle de Samouraï, de la compagnie Samouraï, et de Christophe Chaumette, qui lui aussi est connu pour toutes ses interventions et qui travaille beaucoup, lui, sur l'intergénérationnel, qui est un thème important aussi, le respect des générations.
Ça, c'est un gros travail quand même pour proposer ça pour la première année, enfin la seconde, après ce qui s'était déroulé l'an dernier à la Halle Saint-Jean. Là, vous êtes parti sur du lourd quand même, avec les ateliers, il y a eu un film également hier soir, le spectacle Samouraï, le goûter philo, de nombreux partenaires.
Oui, mais c'est intéressant, et puis j'espère que ça va aller crescendo pour les années qui suivent, parce que voilà, l'an dernier, ça a déjà pris, la dynamique a pris, et là, on voit que ça s'étoffe. Il y a de nouveaux partenaires, la MGEN aussi, qui est venue se joindre à nous pour financer aussi cette exposition photo, parce que les étudiants n'ont pas les moyens.
Alors justement, c'est financé comment ?
Là, en fait, il n'y a eu que le financement de la MGEN pour cette exposition photo, puisqu'après...
Le spectacle a été pris en charge par les villes,
voilà,
dans le cadre de la saison, oui.
Et la mairie met en place, met à disposition plutôt les salles qui sont disponibles.
Et le personnel de la maison solidaire. Ouais.
Voilà, le personnel de la maison solidaire, de l'Antirouille. Donc, cette année, ce projet n'a pas coûté bien cher. L'an dernier, le projet Maison Géante était coûteux, mais on avait eu pas mal de sponsors là aussi, avec la Mutualité Française, etc. Donc, mais cette année, il n'y a pas trop de frais. Voilà, c'est vraiment le bénévolat, le travail des élèves et des professionnels.
D'accord.
Alors, juste pour dire que ce soir, le spectacle d'Alexandre, tiré de l'œuvre d'Alexandre Jolien, il était hier soir, en fait, à Marvejols, en visioconférence, voilà, avec l'équipe à la fois du TMT et de l'IMPRO Le Gaillon. Ils ont pu faire tout un débat avec des jeunes handicapés. Apparemment, ça s'est très très bien passé, c'était vraiment très très intéressant. Ce soir, on va voir donc le travail réalisé par la compagnie Samouraï. Peut-être dire quand même un mot sur Alexandre Jolien. Vous connaissiez le personnage ou pas du tout ?
Je connais Stéphane Jolien, le livre qu'il a écrit, c'est un philosophe, etc. Mais je n'ai pas pris le temps encore de lire son livre. C'est pour ça que
justement, lui ne parle pas de différence. Lui, il parle de singularité. Et c'est vraiment ce mot, je trouve, qui est intéressant, en tout cas peut-être pour les prochaines années, de travailler sur ça. C'est-à-dire, quand on travaille sur la différence, on travaille sur ce qui est différent entre les êtres. La singularité, c'est pas la même chose. Quand on travaille sur la singularité, c'est-à-dire qu'on met en valeur ce qui fait que quelqu'un est singulier. Et cette façon de voir, quand il explique lui en tant que philosophe, elle est essentielle, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus positif de parler de singularité que de parler de différence. Et aussi parce que ça donne à voir que ce n'est pas qu'un problème de handicap ou de problème de génération, c'est un problème d'homme et de femme. On est tous très singuliers.
Voilà.
C'est-à-dire à la naissance, qu'on soit handicapé ou entre guillemets normaux, on est singulier. Voilà. Et c'est cette notion-là que moi j'ai découvert dans ses œuvres, dans son travail, et dans cette visioconférence, et dans tout ce qu'il a pu dire ou écrire. Et je trouve que ça, c'est essentiel. C'est une autre vision de ce que l'homme est, ou comment il grandit, dans quel environnement il évolue, qui fait de lui un être singulier, mais un être riche, et qu'on soit handicapé, qu'on soit personne âgée, qu'on soit enfant, etc. Et c'est ça ce qui est essentiel. Et je pense que le spectacle de ce soir amène à voir ça. Donc voilà, j'invite tous ceux qui veulent le voir à venir. Il doit rester quelques petites places.
Et oui, parce que chacun on a nos singularités, nos richesses, nos faiblesses, etc. Et puis qu'on peut mettre en valeur. Et il n'y a pas en effet de... Il y a des... Sur cette expo photo, justement, qui est à la Maison Solidaire, il y a des phrases qui sont très parlantes et qui, en effet, montrent que aujourd'hui, on est ici. Demain, on peut être à la place de l'autre, qu'on juge peut-être aujourd'hui inférieur ou supérieur à nous, alors qu'on n'a pas à juger quelqu'un de supérieur ou inférieur. Et c'est très parlant, toutes ces petites citations qu'elles ont jointes à ces photos, qui est magnifique. Et voilà, c'est chacun, on est comme on est, et il faut vivre tous ensemble. Il faut apprendre et réapprendre peut-être, parce que moi je
le vivre ensemble, c'est ça.
Le vivre ensemble, parce que dans notre société actuelle, je suis assistante sociale aussi de profession et je vois qu'il y a beaucoup d'individualisme.
Une perte de solidarité, c'est ça.
Voilà, et il faut qu'on mette en avant ce besoin de solidarité, de mieux vivre ensemble, parce que les uns sans les autres, on n'est rien, on ne peut pas avancer. Là, on voit tout ce travail qui a été fait en réseau. Les jeunes, tout à l'heure, qui parlaient justement de leur projet, c'est un travail en réseau. Les réseaux existent, enfin, je vois sur la Lozère, le réseau santé précarité, le réseau... On a cette chance dans le département, quand même, de pouvoir travailler en réseau, que ce soit dans la culture, le travail, la santé, etc. Et justement, ce travail en réseau nous permet de travailler sans différence et sans voir de différence. On travaille tous ensemble sur le même pied d'égalité. Et c'est ce sur quoi il faut avancer, que tout le monde avance dans le même sens.
Donc déjà, on sait que ce sera renouvelé en 2014.
Alors, ben, on espère bien que chaque année, on pourra faire un rendez-vous comme ça, en travaillant tous ensemble, justement, et sur les thèmes qui sont quand même... selon les besoins qu'on ressent à la maison solidaire, selon les besoins des gens, les gens qui souffrent de telle chose ou qui ont envie de parler de tel sujet, voilà, on saute sur l'occasion et on commence à y travailler dessus, dire est-ce qu'on peut faire quelque chose de ces questionnements, est-ce qu'on peut faire un événement, un colloque, enfin quelque chose là-dessus. Pour interpeller, enfin les gens nous interpellent et nous on est un petit peu le relais pour interpeller les autres.
Très bien. Alors peut-être dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires, ce sera peut-être l'occasion d'introduire justement ces notions-là.
Tout à fait, oui.
De travailler tout au long de l'année, pas attendre juste un événement pour en parler, quoi. Mmh. C'est comme la journée des droits de la femme, c'est pareil, il ne faut pas attendre la... le 8 mars pour en parler.
Oui, voilà,
ce qui serait mieux, c'est de l'intégrer. Je pense, moi, qu'il y a un vrai boulot à faire sur la parentalité et tout ce qui a trait autour, l'intergénérationnel, les discriminations, les singularités, les différences.
Alors,
ça peut faire partie de...
Eh ben, c'est-à-dire que tout ce travail se fait déjà à la maison solidaire, à l'Antirouille aussi, à l'espace jeunesse. Mais ça se fait chez les tout-petits, dès que pour les nouveaux-nés, etc., avec l'aide à la parentalité, ça se fait à la maison solidaire. Et il faut que ça s'amplifie, tout ça. Et en effet, le soutien pour tout ce qui est périscolaire ou extrascolaire peut être moyen. Avec le rythme scolaire, on peut avoir la chance de pouvoir organiser plein de choses.
D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup. François, c'est un très beau projet en tout cas. On espère que ça va se poursuivre. Peut-être faire un nouveau petit jeu. On a encore des places à faire gagner. Plus facile, celui d'avant était un peu difficile quand même. À savoir, la première personne qui appelle gagne des places. Hein, Nico ?
Ouais.
Alors, tu veux sonner là.
Le 04.
C'est bien.
Donc je rappelle le téléphone, le 04 66 31 59 68. Allez, nouvelle pause musicale.
Voilà, avec Jean-Louis Aubert.
En rien, et plus j'avance, plus je le sais bien, en ce qui aime et en ce qui est, je crois en tout, je ne crois en rien, je crois en ton esprit, je crois en tes pensées, quelqu'un quelque part vivra pour tes idées. Oui, je crois aux images qui arrivent la nuit, le jour, par-delà tous les mirages. Je crois en ton amour, je crois en tout, je crois en rien. Et plus j'avance, plus je le sais bien, ce qui est. Je crois en tout, je ne crois en rien. Je crois en tes religions, en tes textes sacrés. La parole elle-même est sacrée. Je crois en toutes les politiques du monde. Je sais qu'elles
crois en tout, je ne crois en rien. Et plus j'avance, plus je le sens bien. En ceux qui aiment et en ceux qui haïssent, je crois en toi, je crois en moi.
FM Le Mag.
Et donc voilà la troisième partie de ce mag de 48 FM, ce 24e mag avec Nicolas Blanc, le directeur des scènes croisées de Lozère, qui viennent de signer leur convention d'objectifs et de moyens. Donc peut-être pour commencer, rappelez-nous, c'est une convention sur combien d'années ?
C'est une convention sur 3 ans. Elle a démarré en 2012.
D'accord.
Convention sur 3 ans.
Voilà.
Qui a démarré en 2012 et qui s'achève en 2014. Et qui rassemble en fait les trois partenaires principaux institutionnels de Sainte-Croisée de Lozère, que sont l'État, le ministère de la Culture et de la Communication, premier financeur, le Conseil général de la Lozère, et la région Languedoc-Roussillon, et bien sûr l'association.
Donc vous faites partie des 118 scènes conventionnées en France, c'est ça ?
C'est ça, c'est un programme du ministère de la Culture, assorti d'un cahier des charges, en fait, qui est défini dans une circulaire nationale. Et. Qui est adapté à chacun des territoires sur lesquels s'exerce le travail de la structure. Donc, chaque structure adapte son cadre d'intervention à sa réalité locale, mais tout en étant dans les clous d'un cadre national défini par le ministère et le législateur.
Voilà, vous avez une sorte de cahier des charges.
Un cahier des charges à respecter.
La particularité de la scène conventionnée de Lozère, c'est quoi ? Parce qu'on entend parler des scènes conventionnées, par exemple, jeunes publics. À Villeneuve-les-Maglones, donc elle est sur un petit territoire avec une spécialisation jeune public. Vous, en fait, elle concerne quoi ?
C'est vrai que chaque scène conventionnée, l'État intervient sur une partie du travail de la scène conventionnée. C'est vrai qu'on a des scènes conventionnées sur le jeune public, d'autres qui sont conventionnées sur la danse, d'autres qui sont conventionnées sur le cirque, sur la chanson. La particularité de Sainte-Croisée, c'est son travail de réseau, le fait qu'elle est itinérante, et qu'elle va porter un regard particulier sur les écritures d'aujourd'hui. Donc, écriture d'aujourd'hui, écriture contemporaine, tout ça regroupe différentes appellations, mais en tout cas, l'idée, c'est d'être en éveil et de présenter au public et de travailler avec nos partenaires sur des esthétiques, esthétiques contemporaines, c'est-à-dire travailler avec des auteurs qui sont vivants, favoriser l'émergence de jeunes compagnies, montrer ce qu'est la danse contemporaine aujourd'hui, voilà, essayer d'être attentif à ce qui fait, à ce qui se fait de plus novateur, après à la mesure de nos moyens, en matière de création scénique, puisqu'on couvre l'ensemble des disciplines. On intervient aussi bien sur le champ de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque.
Voilà, c'est le fil rouge, en fait, la découverte des écritures scéniques d'aujourd'hui.
Oui, c'est là-dessus que s'est construit le projet artistique, hein, puisqu'en fait, dans le cahier des charges, voilà, il y a un certain nombre de missions à respecter, qui sont les missions inscrites dans la convention d'objectifs avec nos partenaires. Mais il y a également aussi le fait de construire un projet artistique sur ces 3 années. Et donc, voilà, puisque quand on fait de la programmation d'objets artistiques, il y en a de toutes sortes. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de spectacles qui se créent dans toutes les disciplines. Et donc, mon travail et le travail de l'équipe, c'est voilà, de faire un choix. Et pour faire un choix, il faut s'appuyer sur un projet. Et donc, c'est ce qui m'a été demandé quand j'ai été nommé à la direction des Saintes-Croisées, sans que la première étape, ça a été ça, ça a été d'écrire le projet artistique, donc de donner les garanties à l'État que je vais m'inscrire dans le, voilà, dans un cadre qu'il souhaite, et ensuite ce projet artistique, il se déroule sur, il va se dérouler, on le déroule au fil de nos programmations sur les 3 années à venir.
Il y a un projet qui doit être artistiquement, pardon, et culturellement original, c'est dans votre ou pas? J'ai lu ça sur votre.
Oui, enfin original dans le sens où effectivement il y a une fonction, une forme d'exemplarité. Enfin voilà, il y a 118 scènes conventionnées en France, donc ça veut dire qu'elles sont reconnues pour un travail particulier. Voilà, l'originalité de Saintes-Croisées, c'est son réseau, son travail en itinérance. On s'appuie pas sur un lieu, on s'appuie sur un ensemble de partenaires qui sont sur l'ensemble du territoire de la Lozère. C'est plus d'une trentaine de partenaires.
Et qui ont des programmations très éclectiques, d'ailleurs.
Oui, qui ont des programmations tout à fait éclectiques, qui travaillent sans nous, mais qui travaillent aussi avec nous sur certaines spécificités. Moi, c'est ce que.
Alors, comment se fait comment se fait cette relation avec ces partenaires? Comment vous la construisez?
Bon, c'est un travail, on va dire,
de rencontre.
Ouais, hein, quasi quotidien, ou en tout cas, s'il n'est pas quotidien, enfin, on est déjà, on les rencontre quasiment tous les jours, puisque chaque fois qu'on met en place une opération, on est au contact d'un partenaire, puisqu'on on travaille quasi jamais seul ou quasiment pas. Voilà. Ensuite, on a des réunions de travail, qu'on appelle des réunions de programmation, en fait, qui ont pour but d'échanger sur les spectacles qui ont été vus ou qui sont à voir. Voilà. Ensuite, on se déplace également sur des spectacles. Voilà, un échange, au long cours, en fait, au long de l'année, qui nous permet petit à petit d'affiner et de dire, bah, voilà. J'ai vu ça, toi tu as vu ça, oui, voilà, tel spectacle qui serait plus judicieux là, voilà, parce qu'après on est aussi confronté à des enjeux techniques qui sont importants sur la Lozère, puisque la spécificité du théâtre ou de la danse, c'est qu'il faut des équipements, il faut des espaces.
C'est très gourmand, ouais,
donc heureusement on s'appuie sur le parc départemental de matériel technique qui est très compétent, qui a l'habitude d'aménager les salles, mais ça a un coût et il y a des spectacles qui ne rentrent pas partout. Donc on adapte aussi la proposition en fonction de l'équipement et en fonction de ce qu'on ressent aussi
sur le territoire.
Du partenaire sur le territoire qui creuse lui aussi son fil rouge, son sillon.
Parce que l'objectif, c'est pas de faire les gros spectacles à Mende et puis les petits à l'extérieur.
On essaye d'équilibrer. C'est vrai que Mende offre une infrastructure qu'on ne trouve pas ailleurs, de par le théâtre, de par l'espace des anges, qui a un rapport assez singulier, assez particulier, assez intéressant. Mais il y a d'autres, voilà, enfin je veux dire, sur Langogne, on arrive à développer des gros concerts avec les Fagues d'Arel, par exemple. On a fait les Hurlements de Léo, on travaille sur Alexis HK, je pense, la saison prochaine. Voilà, sur Marvejol, la salle polyvalente, au fil des années, on a appris à l'équiper. La commune de Marvejol a investi aussi dans la salle polyvalente pour qu'on l'équipe plus facilement. Donc ça nous permet d'accueillir des spectacles, effectivement, tout à fait intéressants.
Et puis il y a tout le travail que vous avez fait avec Catherine Zambon sur le monde agricole. Qui a donné lieu après à des lectures, donc d'autres formes en fait que du théâtre classique.
Ben c'est tout ce qui est, en fait, quand on parlait de cahier des charges tout à l'heure, c'est vrai que dans notre mission, il y a aussi celle de construire et de renouveler un public. Et donc pour construire et pour renouveler un public, il faut, au-delà de lui présenter des spectacles, travailler à lui faire rencontrer les artistes, à le faire débattre avec les artistes, à former son regard. Donc c'est tout le travail qu'on appelle d'action culturelle dans le jargon. Et voilà, qui est de permettre à l'artiste finalement de d'expliquer son travail, de le recontextualiser. Donc ça passe effectivement par des stages, par des conférences, par des rencontres. Voilà, toute une série d'actions, c'est classique, mais en même temps qui permettent voilà, de sortir du simple voilà, je vais voir au spectacle, je vais au spectacle, je rentre chez moi, je repars avec mes questions. Là, l'idée, c'est de pouvoir les échanger avec l'artiste. Et dans le cahier des charges aussi, c'est vrai, Nicolas, tu faisais référence à Catherine Zambon, on a l'accompagnement des artistes, en fait, et du travail artistique, et aussi fait partie de l'émission des scènes conventionnées. C'est-à-dire qu'on développe ce qu'on appelle des résidences d'artistes. Donc, on invite des artistes à venir travailler sur le territoire.
Et à vivre.
Et à vivre sur le territoire. Donc, soit pour leur propre projet de création, soit pour des projets qui sont partagés. Et celui de Catherine Zambon est un très bel exemple, puisque c'est vraiment une proposition artistique qui s'est construite à deux, avec cet auteur, Catherine Zambon, qui avait envie de travailler sur le monde rural, sur le monde agricole. Et nous, qui avions aussi ce désir-là, et on a cherché ensemble comment construire ce projet. Du coup, un projet qui va s'étaler presque sur les 3 ans, puisque ça commence par des séjours dans des exploitations agricoles pour récolter de la matière documentaire. Tout ça ensuite est mis en forme dans un texte de théâtre, voilà, qui s'appelle Les Agricoles, qui a été écrit en novembre. Et maintenant, on travaille avec Catherine sur...
Qui a été lu un petit peu déjà.
Ouais, qui a été donné dans plusieurs... du coup, comme elle a séjourné dans des exploitations agricoles, elle est revenue dire le texte. Et c'était très beau, du coup, ces rencontres...
Elle est restée très attachée à ses agriculteurs aussi.
Et au territoire, oui, puisqu'on l'a rencontré à deux reprises. C'est vrai que c'est un témoignage et c'est vraiment... intéressant. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la différence. Est-ce que, Nicolas Blanc, il n'y a pas justement un problème, nous, en Lozère, qui serait justement la grosse différence avec les autres départements, même limitrophes ou d'ailleurs, sur le fait d'avoir très très peu d'artistes en fait résidents toute l'année en Lozère? Est-ce que ce n'est pas un écueil pour nous, en Lozère, d'être loin à la fois des infrastructures et des grandes capitales culturelles?
C'est sûr, c'est dommage. Après, je pense que des structures comme Sainte-Croisée, comme toutes les structures culturelles, accueillent aussi...
Répondent un petit peu à ça.
Voilà, il y a beaucoup de lieux de résidence en Lozère. Sainte-Croisée en accueille, mais voilà, il y a des compagnies qui sont installées. Il y a la compagnie
des Bernus. Il y a quelques compagnies, bien sûr. Hein.
Voilà, il y a Franck Vigroux qui est résident, qui habite même ici. Donc c'est sûr que plus il y a d'artistes, plus ça crée de l'émulation. Mais en même temps, je crois qu'on n'est pas si isolé que ça. Parce qu'il y a un certain nombre de lieux qui se créent. Le Théâtre de la Mauvaise Tête accueille régulièrement des artistes en résidence.
La Jeunette Verte.
Enfin, la plupart des structures culturelles.
Ma question, c'était pas dans le sens il n'y a pas grand-chose et on ne fait pas grand-chose. C'était plutôt en rapport à la population. Est-ce que le fait d'être un département rural avec proportionnellement moins d'infrastructures qu'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un handicap quelque part ou un problème de discrimination à l'accès à la culture?
Non, mais du coup, j'ai pas l'impression que qu'on soit plus déshérité qu'ailleurs, en fait. De par la multiplicité quand même des lieux, et si on en fait l'addition, ils sont quand même assez nombreux. Et si on regarde,
est-ce qu'on a des chiffres, si on additionne,
si on additionne le travail des uns et des autres, je pense qu'on a une forme de permanence artistique sur le territoire qui est assez importante. Je pense qu'il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas un artiste en Lozère quelque part. Quoi.
Et ça oblige aussi à trouver des lieux insolites. Je pense aux instants sonores où vous êtes allé un peu partout sur le département.
Bah oui, je crois que le spectacle vivant, il peut s'adapter à des lieux assez exceptionnels, un patrimoine naturel, un patrimoine bâti. C'est vrai qu'on a investi l'an dernier la filature des calcaires, on est allé sur le domaine des Boissés. C'est aussi ça.
C'est aussi une force, ça, je pense.
Bah, c'est aussi ça, ouais, de travailler en milieu rural, c'est ça. C'est aussi savoir s'adapter. Et ce qui peut être une contrainte vis-à-vis de mes collègues, pour moi, j'en fais un atout. Parce que quand je travaille avec des artistes, j'ai pas un seul lieu à leur proposer, mais j'ai une multiplicité de lieux. Et tout l'enjeu avec eux, c'est de trouver le meilleur endroit ou ce qui va le faire le meilleur écho à leur travail.
Vous cherchez l'artiste avant le lieu, ou des fois vous trouvez le lieu et vous cherchez l'artiste après? Comment se passe la réflexion?
Ouais, c'est dans les deux sens. Ouais.
C'est dans les deux sens.
On peut avoir un coup de cœur pour un lieu et se dire, voilà, c'est vrai que moi, le domaine des Boissés, par exemple, c'est un lieu que je trouve assez fascinant, que je trouve très beau à cet endroit-là, sur ce cos, voilà, qui domine comme ça les gorges du Tarn, et on a eu envie d'y faire quelque chose. Donc à partir de là, on trouve les artistes qui vont pouvoir rentrer dans ce lieu et trouver la forme qui va faire que ce lieu va pouvoir vivre une journée au rythme des instants sonores et d'un parcours musical. Et à l'inverse, on peut voir un spectacle et se dire, oui, effectivement, voilà, c'est à tel lieu.
Il peut bien aller là.
Voilà,
par exemple.
Ouais.
Alors c'est une force. Je pense que la force qu'on a sur ce territoire, en tout cas, c'est l'accueil. Parce qu'autant on n'a pas de grosses infrastructures culturelles, enfin des salles qui coûtent des millions d'euros de fonctionnement par an, mais du coup c'est toute cette énergie et tous ces nos moyens, je dirais, en Lozère, sont aussi essentiellement sur l'accueil.
C'est ce que soulignent les artistes.
Et sur la convivialité et sur la façon qu'on a de leur faire partager des espaces naturels, c'est ça ?
Ouais, ouais. Quand on discute avec eux, c'est vrai. Alors avant, ils sont toujours un peu effrayés parce que il faut beaucoup de temps pour venir en Lozère, en fait. Ouais. Puis on se dit, voilà, est-ce qu'on va trouver un public ? Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont inquiets.
Comment vont être les conditions d'accueil ?
Voilà, puis comment ça va être reçu ? C'est vrai que voilà, peut-être les artistes ont l'habitude d'un public plus urbain, donc se disent voilà, ils sont un peu parfois un peu craintifs de
est-ce qu'ils parlent du public dit
rural, même si pour moi il n'y a pas de public rural, il y a un seul public, voilà, après tout le monde
il y a des publics singuliers.
Ouais, il y a des publics singuliers, mais il y a qu'un seul public. Après après effectivement, une fois qu'ils sont là, qu'ils ont vu, qu'ils ont rencontré les gens, découvert les sites, bon, voilà, ils repartent toujours avec soit l'envie de revenir, soit de revenir en vacances, parce que les paysages sont superbes et parce que voilà, on leur a donné aussi des garanties techniques. C'est vrai, quand ils arrivent et qu'ils voient une salle polyvalente, ils disent mais c'est là qu'on joue demain. Bah oui, c'est là, vous allez voir. Et voilà, et quelques heures après, c'est transformé en théâtre et voilà, le public est au rendez-vous. Et
c'est vrai qu'il y a un grand professionnalisme, hein, ça on peut
le
souligner avec les partenaires, que ce soit les associations, le parc départemental. Et les fédérations qui interviennent beaucoup, c'est aussi ce qui fait la force sur ce département, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne pourrait pas, par rapport au budget qu'on a, faire tout ce boulot, quoi.
Ben, on arrive à mutualiser nos efforts, nos moyens, additionner nos réseaux. C'est vrai qu'on l'a vu sur Spectacle en recommandé, qui était un temps fort de visionnement de spectacle avec des professionnels venus de toute la France. Et je crois qu'on a montré...
L'Europe.
De l'Europe. Et on a montré là une vraie capacité à accueillir les artistes, des professionnels. C'est vrai que c'est notre force.
Alors justement, cette force, elle passe aussi par l'argent. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu en préambule. C'est un budget donc de combien sur plusieurs années qui représente quoi en fait par rapport au budget annuel de votre association ?
On est sur un budget d'à peu près d'1 million par an de la structure, 1 million d'euros. Et là-dessus, on a à peu près 70% de subventions publiques qui nous viennent des partenaires signataires. Donc, je le disais, l'État, premier financeur. Je peux te détailler les chiffres, si c'est ça qui t'intéresse, Nicolas.
Pas moi, mais peut-être les auditeurs. Parce que c'est de l'argent public, c'est intéressant de savoir. J'ai écouté un débat hier soir à la télé, justement, c'était nécessaire de rendre aux citoyens aussi une lecture d'où passe l'argent et à quoi il sert, et que c'est pas... Et c'est aussi de le rapprocher à ce que font les autres avec ce même argent. Parce qu'on verra là, dans la suite de la discussion, qu'avec un peu moins d'argent, on arrive à faire beaucoup mieux. Donc il y a peut-être des... Comme tu en parlais tout à l'heure, la mutualisation, c'est peut-être ce qu'il faut vers ce vers quoi il faut aller, en tout cas aujourd'hui.
Heureusement que tu n'as pas regardé Jurassic Park, parce que je ne sais pas quelle question tu aurais posé à Nicolas.
Non, mais ce n'est pas de l'argent public, mon grand, c'est de l'argent privé. Vrai.
Je ne sais pas si l'enjeu de la mutualisation, c'est de faire avec moins d'argent, mais plus efficient.
Pas dit ça avec le même argent, c'est d'arriver à... En tout cas, je pense que sur ce département, on arrive à faire énormément avec moins d'argent.
Oui, certainement. Mais en tout cas, il faut quand même de l'argent pour faire vivre des salariés, accueillir des spectacles, tout ça à un coût. C'est vrai qu'on pratique aussi, mais c'est aussi inscrit dans nos cahiers des charges, je crois que la politique d'accessibilité...
Sur les transports.
Sur les transports, mais sur le prix des places aussi.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'en Lozère, aller faire un tour sur le site d'un théâtre ou d'une scène nationale, regarder le tarif qui est pratiqué, regarder celui qu'on pratique en Lozère, c'est du simple au double.
On est entre 15 et 30 euros sur les scènes classiques, sur les petits spectacles, alors qu'en Lozère, on est plutôt entre 7 et entre 5 même et 15 euros max. Euros, quoi.
Ouais. C'est du simple au double pour le même spectacle. Après, parfois, les conditions ne sont pas les mêmes. Conditions d'accueil ne sont pas les mêmes. Enfin, en tout cas, pour le spectateur.
Oui. Le coût du siège, mais qui est lié souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est lié aux structures d'accueil. Quand on a un théâtre qui fonctionne avec un million d'euros par an en termes de fonctionnement, le prix de la place est bien plus élevé qu'une salle polyvalente qu'on va louer occasionnellement à 400 euros la soirée, quand elle n'est pas gratuite.
Oui. Mais après, il y a le coût d'équipement.
Il y a le coût d'équipement, ouais.
Donc voilà, grosso modo, on est sur un budget d'1 million d'euros pour ce qui est des scènes croisées. Donc ça fluctue d'une année sur l'autre, mais on est autour de 300 000 euros pour le financement de l'État, 220 000 euros pour ce qui est du Conseil Général, et autour de 200 000 euros pour ce qui est du Conseil Régional Languedoc-Roussillon. Ça fait à peu près un peu plus de 70% des dépenses qui sont prises en charge par les subventions, et le reste viennent de...
Des partenaires, des entrées. Voilà. Ouais. 30% d'autofinancement à peu près sur votre exercice.
C'est ça. Donc ça multiplié par 3, puisqu'on est sur un projet
sur
3 ans, avec une évaluation annuelle et une évaluation au terme des 3 ans.
Et chaque année, vous arrivez à rentrer dans votre budget ou plus ou moins quoi? C'est à peu près équilibré.
C'est à peu près à l'équilibre chaque année, oui. D'accord. On y veille.
Ouais.
C'est un peu mon boulot avec celui de l'administrateur.
Quels sont les facteurs justement qui font que c'est compliqué à gérer?
C'est la part d'autofinancement. Donc on peut avoir des chutes de billetterie, on peut se planter sur un spectacle, espérer faire un certain nombre de recettes qu'on n'atteint pas. On peut aussi être surpris quand on s'engage sur des créations par des coûts techniques qui étaient imprévus. C'est-à-dire que quand on... on a cette mission d'être attentif à ce qui se crée aujourd'hui. Donc on s'engage souvent sur des spectacles qui ne sont pas encore fabriqués, donc sur lesquels on a des fiches techniques provisoires. Et puis au final, quand la création est faite, on se rend compte que voilà, le coût technique est beaucoup plus important que celui qu'on avait évalué. Donc voilà, c'est essentiellement ça, les facteurs, puisque le reste, on le connaît. On connaît le coût des spectacles quand on les achète, et on connaît nos coûts de fonctionnement, on connaît la masse salariale et nos frais, nos fluides, comme on dit.
Alors, ça peut paraître beaucoup, 1 million d'euros, et en même temps, c'est toute une économie. C'est-à-dire qu'il faut bien redire aux gens que c'est de la consommation aussi sur le département. Il y a beaucoup d'argent qui sont réinvestis sur le plan local, donc ça, c'est important. Et puis après, en masse salariale, donc... des impôts indirects, des taxes d'habitation, des choses comme ça, qui font que cet argent-là, qui est capté en fait pour une grosse part, reste sur le département.
Hein. Ah, tout à fait, tout est injecté dans la vie du département. Hein. Nous, on travaille. Notre mission, c'est de faire vivre le département dans une espèce de quotidien. Je parle de permanence artistique sur ce département. En fait, on essaye d'être attentif à ça, de développer, comme je disais, des résidences, des spectacles, des rencontres, des stages. Tout ça, c'est très important. On est très présent aussi sur l'éducation artistique, travailler en milieu scolaire, la formation des jeunes publics, puisqu'il y a des programmations. C'est vrai qu'il y a toute une partie visible, puis il y a tout ce qui est plus invisible, sur lequel on ne communique pas parce qu'on s'adresse à des publics captifs. Mais il y a un gros travail qui se fait dans les écoles, sur tous les niveaux. Et pareil, sur lequel on est engagé en partenariat.
Ça représente combien de représentations par an, votre
saison ? Ouais, on est à peu près sur une centaine de représentations.
D'accord.
Voilà. Pour en gros, entre 40 et 50 spectacles. Ça fluctue en fonction du coût des spectacles, en fonction des calendriers. Mais en gros, c'est à peu près ça. On va diminuer un peu parce que on est soumis, un peu comme toutes les structures, à des contraintes budgétaires un peu en baisse, puisqu'il y a des gels de crédit, gels de crédit d'État, des difficultés dans les collectivités locales. Donc je pense qu'on va ajuster un petit peu, on va diminuer un peu. Mais pour autant, je pense qu'on a une offre culturelle relativement riche. C'est à peu près également, en termes de si on parle de chiffres, c'est à peu près 10 000 spectateurs par an. Je pense qu'on ne chôme pas, c'est 9 salariés, et puis sur le million d'euros, il y en a 500 000 qui sont à peu près sur l'artistique, donc qui vont aux artistes, achat de spectacles, mais aussi technique,
transport, déplacement,
droit d'auteur, hébergement,
ça,
et à peu près la moitié sur les coûts de fonctionnement, qui représentent 9 salariés, c'est essentiellement ça, le gros du budget, puisqu'après on part de consommables, c'est pas énorme.
D'accord, c'est une petite entreprise de 9 salariés.
C'est ça, c'est une petite PME qui œuvre au quotidien avec les artistes et sur tout le territoire. Donc c'est vrai que c'est aussi de la logistique. Hein. C'est aussi ça, d'une semaine à l'autre, on travaille aussi bien à Mende qu'à Langogne, Florac, Villefort, dans les Cévennes, au Pont de Montvert.
Peut-être pour terminer, Nicolas, le prochain spectacle, parce qu'on va parler artistique quand même, le prochain spectacle proposé par les Scènes Croisées.
C'est ce vendredi au Théâtre de la Mauvaise Tête à Marvejols, un spectacle qui s'appelle OPID. Qui est écrit par Sylvain Levé, un auteur qu'on a pas mal accueilli, notamment en milieu scolaire, qui a fait beaucoup de travail avec nous pour expliquer ce qu'était un auteur de théâtre aujourd'hui, un auteur vivant, et qui a écrit un spectacle sur le monde du travail. C'est l'histoire de la chute d'un cadre, un cadre dirigeant d'une entreprise qui, au fur et à mesure des problématiques, des nouvelles problématiques de management et autres, en arrive à se suicider. Thème un peu triste, mais en même temps,
c'est carrément triste.
C'est un enjeu sur les conditions de travail actuelles, le monde du travail. On sait qu'avec la crise
les nouvelles
méthodes de management, c'est une vraie question. Enfin, c'est des faits divers qui font quand même l'actualité quotidienne.
Oui, il y a eu plusieurs spectacles qui ont été montés sur ça, hein, notamment sur les conditions de travail dans des sociétés de téléphonie, ouais. Sans les citer, qui ont, voilà, notamment une compagnie belge qu'on accueillera sans doute l'année prochaine, qui a fait ce travail-là aussi, qui est très très intéressant.
C'est vrai que les artistes ont cette particularité, fait, ouais. C'est se servir voilà, de ce qui fait, d'écrire sur l'actualité.
De ce qui fait la société aujourd'hui.
Et de mettre
en perspective. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est donner à voir aux gens, en tout cas, une version, une autre lecture en fait, de notre monde, hein, de ce qu'on vit au quotidien. Donc ils sont en phase avec la société, sauf qu'eux la voient des fois différemment et ça fait du bien, la façon dont ils la voient. Voilà. Tout un petit mot de la fin, Nicolas.
Ben, rendez-vous vendredi à 20h30 au Théâtre de la Mauvaise Tête à Marojol, enfin à la salle polyvalente. Ce très joli spectacle du Théâtre du Rictus au Pays des.
Est-ce qu'il y a un transport au départ de Mende ?
Non, pas sur celui-là.
D'accord.
Pas sur celui-là. C'est vrai qu'on en fait sur certains, mais pas, ouais. Voilà, pas systématiquement. En tout cas, voilà, si vous ne nous connaissez pas ou si vous nous découvrez aujourd'hui, je vous invite à découvrir le site internet et puis voilà, trouver notre plaquette qui est un peu partout. Vous pouvez nous appeler aussi www.scène3z.fr.
Il y a plusieurs points de réservation où on peut retirer les billets.
Ben vous pouvez nous appeler, on peut faire une pré-réservation, vous pouvez passer au bureau, au bureau à Mende, boulevard Pritext, ou directement sur les lieux, peut-être de la Mauvaise Tête en l'occurrence, à Marvejol, pour ce qui concerne le spectacle de ce vendredi.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.